Bienvenue sur les bonnes ondes de Radio B 90 FM. Nous sommes heureux de proposer une nouvelle chronique du passé. Bonjour Gilliane.
Bonjour à vous tous, auditeurs. Bonjour Martine.
Alors, Rémi abandonne les auditeurs de Radio B?
Non, pas tout à fait. Il propose un conte de Noël dans la tradition des histoires telles que nos ancêtres les racontaient lors des longues soirées hivernales. Il a pensé que nous étions habitués à lire des contes à nos petits-enfants et que nous serions mieux à même de raconter cette histoire du loup de Seyon, publiée voici plus de 150 ans.
Une histoire de loup? Pas de quoi effrayer nos jeunes auditeurs à quelques jours de Noël.
Oh, en principe, toute histoire se termine bien. Nos auditeurs le sauront lorsque nous aurons entendu les premières notes de Pierre et le loup de Serge Prokofiev.
Avant de raconter l'histoire, évoquons l'histoire avec un grand H. Y avait-il des loups en forêt de Seyon?
Bon, en réalité, assez peu. La forêt était continuellement parcourue par les hommes qui faisaient leur bois, comme on disait alors. Ils coupaient du bois pour se chauffer l'hiver et cuire leurs aliments tout au long de l'année. Il fallait aussi abattre les bouleaux pour fabriquer les sabots et les chênes pour bâtir des maisons ou fabriquer des meubles. La forêt bruissait toujours de leur présence. Certains y restaient plusieurs jours.
Et l'on sait qu'en général, les loups fuient la compagnie des hommes, sauf s'ils sont poussés par la faim lors des hivers neigeux et rigoureux. A-t-on quand même tué des loups en forêt de Seyon?
Quelques-uns, notamment sous la Révolution. Des primes étaient accordées pour encourager ces destructions. Un rapport indique que les loups ont été éradiqués à Seyon lors de l'hiver de 1829 à 1830, très rigoureux.
Notre histoire est donc antérieure.
Elle date de plus de 150 ans et elle était alors rapportée par un garde champêtre qui la tenait lui-même de sa grand-mère.
On y est. Nous pouvons commencer par « Il était une fois ». Il était une fois un pauvre bûcheron et une pauvre vieille bûcheronne qui habitaient au milieu des bois dans une misérable cabane. Ils n'avaient pour vivre que le produit des ramées, des fagots, que le mari allait tous les jours chercher dans la forêt pendant que sa femme cultivait leur courtil, leur jardin, ou menait paître leurs chèvres.
Un soir, que le bûcheron regagnait son logis en portant sur ses épaules un lourd fagot, tout d'un coup, au coin d'un sentier, il se trouva face à face avec un loup. Il fut saisi d'une grande peur, car jamais il n'en avait rencontré un de la taille de celui-là, et surtout avec un air aussi féroce.
Ce loup était fort grand, mais très maigre. Ses yeux brillaient et il montrait des dents pointues et blanches. On voyait bien qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours.
La première pensée du bûcheron fut de jeter son fagot et de prendre la fuite. Mais le loup ne lui en laissa pas le temps. Il se précipita sur lui et le terrassa.
« Arrêtez !» s'écria alors le pauvre homme. « Arrêtez, Monseigneur le loup! Y songez-vous, manger un vieux comme moi? Oh, ce serait un dur régal qui ne suffirait pas à apaiser votre faim. De grâce, épargnez-moi !»
Le loup s'était arrêté au cri poussé par le bûcheron, mais il le tenait toujours étendu sur le sol. Il appuyait ses deux grosses pattes sur sa poitrine et le regardait au visage avec des yeux pleins de convoitise. Le bûcheron, voyant que le loup lui avait fait tout de suite plus de peur que de mal, ne désespéra pas de sauver sa vie.
« Si vous me tuez, vous en aurez sans doute dû repentir, Monseigneur le loup, car, voyez-vous, je n'ai que la peau et les os. Ah, si vous vouliez attendre quelque peu et m'accompagner à la maison, quel bon repas vous pourriez faire.
Le loup avait toujours ses pattes appuyées sur la poitrine du bûcheron et il avait rapproché son museau. Mais c'était pour mieux entendre sa victime qui continua.
J'ai deux petits-enfants. Ah, mais si rose et si gras.
En entendant cela, le loup poussa un grognement de joie et se mit à lever le nez en aspirant l'air. On eût dit qu'il flairait déjà la chair fraîche.
Si vous vouliez seulement me laisser mettre debout, je vous conduirai.
Marche ! Gronda en son langage le méchant animal. Marche vite, car j'ai grand faim.
Si ce loup avait eu autant d'esprit que de taille, et peut-être encore s'il n'avait pas été à jeun depuis si longtemps, il aurait bien deviné que c'était pour le tromper que le vieux bûcheron lui contait cette histoire de deux enfants. Car jamais les pères, pas plus que les grands-pères, n'ont offert au loup de venir manger leurs petits-enfants. Ce serait trop horrible.
Le bûcheron avait donc menti. Il n'avait point d'enfants, ni gras, ni maigre. Mais il avait inventé cette ruse pour gagner du temps, dans l'espérance de trouver, en chemin, une occasion de se sauver. Hélas ! Le loup marcha derrière lui, pas à pas, jusqu'au seuil de la cabane.
La vieille bûcheronne préparait des légumes pour la soupe. Il y avait un bon feu dans la cheminée et sur le feu, une large marmite pleine d'eau.
Quand elle vit son mari rentrer et aperçut le camarade qui l'accompagnait, elle eut si peur qu'elle faillit tomber à l'envers.
« Eh bien, dit le bûcheron, où sont les enfants? Ils n'ont pas encore ramené la vache du pâturage ?»
En entendant ces paroles, la vieille fut d'abord très surprise. Mais elle comprit bien vite que c'était un détour. Elle chercha dans son esprit par quel moyen elle aiderait son mari à se débarrasser du loup.
Celui-ci, outre les enfants, venait d'entendre parler d'une vache. Il en passa la langue sur ses babines et, pour mieux songer au bon repas qui l'attendait, il s'allongea devant le feu de tout son long.
Le bûcheron aussi s'était rapproché du foyer et jetait à chaque instant de grosses branches sous la marmite. Enfin, l'eau se mit à bouillir, et quand il vit que le couvercle se soulevait en laissant échapper de petits nuages de vapeur, il cria
« Catherine, verse !»
Aussitôt, la vieille enleva la marmite et renversa l'eau bouillante sur le dos du loup. Ce dernier, que la chaleur du feu avait à moitié endormi, bondit en poussant des cris de douleur. Il fit ainsi trois fois le tour de la pièce, puis, comme la porte était fermée, il enfonça une vitre de la fenêtre et disparut.
Les deux vieux rirent beaucoup de la bêtise du loup et de la façon imprévue dont il s'en était délivré. « Jarni, dit le mari, ce bon souper que je lui avais promis, il ne s'attendait pas à l'avaler aussi réchauffé que ça, mais il emporte une couverture qui lui tiendra chaud tout l'hiver. » C'est en faisant de pareilles plaisanteries qu'ils s'endormirent.
À quelque temps de là, le bûcheron faisait des fagots au plus épais de la forêt de Seillon, quand, soudain, il entendit un léger bruit et vit s'avancer un loup. Ce loup était fort grand, très maigre, et il avait le dos affreusement pelé.
Je suis perdu cette fois, se dit le bûcheron, qui reconnaissait son loup. Il vient pour se venger. Je serai mangé tout à l'heure.
Cette pénible réflexion ne lui avait pourtant pas ôté sa présence d'esprit. Lorsque le loup ne fut plus qu'à 10 pas de lui, il courut vers un arbre qui était proche et, comme il était encore agile, quoique vieux, il y monta assez lestement pour se mettre à l'abri des dents de son ennemi.
Quand le loup arriva au pied de l'arbre, il se dressa sur ses pattes de derrière tant qu'il put, s'élança aussi haut qu'un loup peut sauter, mais inutilement. Le bûcheron était grimpé jusqu'au faîte de l'arbre et, de là-haut, il riait tranquillement.
Lorsque la bête furieuse fut lasse de tourner, de sauter et d'enfoncer ses griffes dans l'arbre, elle s'arrêta et parut réfléchir. Enfin, elle se mit à hurler avec une telle force que, certainement, On l'entendit à 2 lieues à la ronde.
C'est ça, l'ami. Chante à présent. Oh, la belle musique. Tu as vraiment une belle voix. Pendant un moment, le bûcheron ricana sur ce ton. Il espérait que le loup se fatiguerait à monter la garde au bas de l'arbre.
Mais quelle ne fut pas sa frayeur quand de tous les sentiers, de tous les fossés, il vit accourir des loups qui marchaient à la file. Les hurlements du grand loup étaient donc un appel à tous les loups du pays.
Combien en arriva-t-il ? Le malheureux n'avait ni le temps ni le désir de les compter. Bientôt, il se mit à trembler de tous ses membres en voyant le gros loup s'appuyer contre l'arbre. Un second s'élançait sur son dos, puis un troisième, et ainsi de suite.
Cela faisait comme une immense pyramide de loups qui grandissait, grandissait à vue d'œil. Une minute encore, et le bûcheron serait atteint et mis en pièces. Quand, tout à coup, une idée lui vint.
« Catherine, verse » cria-t-il de toutes ses forces.
Les bêtes ont presque toutes une excellente mémoire. Aussi, à ces mots, le vieux loup se souvint de la douleur cuisante qu'il avait ressentie en les entendant pour la première fois devant le foyer du bûcheron. Il bondit alors et prit la fuite.
Comme il faisait la base de la pyramide, ce fut alors une dégringolade et une panique affreuse parmi les loups. Ils tombèrent tous, pêle-mêle, puis s'élancèrent sur les traces de leur chef qui, dans sa frayeur, les conduisit si loin que jamais depuis ce jour on ne revit un seul loup dans le pays.
Voilà donc une belle aventure qui, à quelques jours des fêtes de Noël, peut amuser petits et grands. Nous la devons à Pierre Barbier, directeur du Courrier de l'Ain dans les années 1875-1880.
Nous pouvons donc terminer en souhaitant d'excellentes fêtes à tous les auditeurs de Radio B, ainsi qu'à Jimmy, que nous remercions à la technique. Nous terminons avec la fin de l'œuvre de Serge Prokofiev. Bonne fête, au revoir.
Bonne fête, au revoir.